Bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas suivre l'exemple de mon ami Jerzyński. Je ne vais pas parler à des débutants, je vais parler à ceux qui savent, au contraire. Pourquoi ? Bien, parce que je ne peux faire référence qu'à, disons, à la vie commune du CERN et du LAL, et que ma mission aujourd'hui, c'est finalement de rendre hommage à tous ceux du LAL qui ont participé au CERN. Et c'est cet hommage qu'on ne peut passer comme message sans le faire avec des photographies qu'on ne peut pas expliquer dans leurs détails. Mais je pense que ceux qui ont participé se retrouveront. Bien, donc, en 1954, le CERN a fêté son cinquantenaire et nous fêtons aujourd'hui celui du LAL. Et ça suit évidemment la description que Maurice Lévy a fait ce matin. C'est le LAL a été créé, finalement, parce que le CERN avait été créé. Et qu'il fallait que, en dehors d'un effort international, européen, il y ait un effort à l'échelle nationale. Donc je crois que finalement, ces deux institutions, le LAL et le CERN, sont finalement des frères ou des sœurs. Je ne sais pas comment vous le préférez, mais leur vie commune a été productrice, leur vie individuelle aussi, bien entendu. Mais aujourd'hui, je ferai référence à celle qui a été commune en montrant comment cette familiarité dans ce partenariat a abouti à des résultats importants. Et alors d'abord, la naissance. On vous disait ce matin qu'en décembre 1958, le cadeau de Noël était l'opération du LINAC qui commençait avec 1,8 MeV, 3 MeV là dans l'opération qui est là, je pense que c'était 1,8 MeV. Et par contre en 1959, pratiquement à la même époque, près de Noël, la première opération du PS au CERN à 24 jet. Ça c'est le début finalement de ces deux institutions. Et même s'il y a eu des choses précédentes, bien entendu. Mais lorsqu'on le replace 50 ans en avant, mais finalement, nous nous préparons à démarrer le LHC avec des faisceaux de protons de septeuve. Et là, la collaboration du LAL au CERN est tout aussi vivante qu'elle l'a été durant les 50 années. Et c'est cette partie-là que je voudrais faire ressortir. Bon, alors, essentiellement, je vais donner quelques étapes. Et l'étape de la collaboration du LAL avec le CERN, et elle vous a été décrite ce matin par l'arrivée de Lagarigue au LAL, après son séjour à l'École polytechnique, et finalement, son ambition ensuite, qui a été de créer cette grande chambre à bulles un liquide lourd réalisé à Saclay avec la collaboration d'Orsay et la collaboration de l'École Polytechnique et qui s'est retrouvé ensuite au CERN. Cette chambre-là qui faisait 2 mètres de diamètre et 5 mètres de long avec un champ de presque 2 Tesla finalement a donné l'occasion de faire une découverte dont malheureusement Lagarigue n'a pas pu profiter pleinement, parce que je crois que ses mérites auraient été reconnus par un prix Nobel, mais en 73, je crois, et c'est la référence qui est utilisée d'habitude, les collaborations ont été multiples autour de lui, mais néanmoins, chacun reconnaît que la partie principale, il était le leader, et Violette Brisson, demain, vous en parlera dans le détail. Ensuite, la deuxième étape de cette collaboration, ça a été l'ère du SPS. En 1976, le CERN a mis en fonctionnement le super synchrotron et le LAL a participé à toute une série d'expériences auprès du SPS. Et les contributions notables qui sont citées dans cette liste, il y en a peut-être certaines oubliées, mais NA14, et certainement celle qui qui mérite peut-être d'être singularisée, parce que finalement, elle montrait la nature fractionnaire de la charge des quarks. La transformation du SPS en collisionneur de protons, et non pas comme ADA, vous venez de le voir, a permis finalement de réaliser cette grande découverte, comme vous le savez. Et la part prise par le LAL dans ces efforts, finalement, a été concentrée d'abord dans le détecteur UA2, dont la photo existe sur votre gauche, et de même que la première étape d'expérimentation qui a fait que la vision des bosons de la force faible a été découverte et a permis, disons, les prix Nobel de Carlo Rubbia, de Simon Van der Meer ont été, la conclusion et finalement l'honneur pour tous ceux qui avaient participé, et en particulier donc le CERN et le LAL, ses collaborateurs, je crois, ont pris leur part et ont je crois, été très honorés de cette distinction qui leur a été donnée. Les travaux ont continué auprès du SPS, mais il était clair que déjà que l'étude détaillée de ces bosons nécessiterait la réalisation d'autres expériences, et ça a été évidemment le lancement de la grande expérience LEP. L'ère du LEP, si vous voulez, qui a été citée ce matin comme déjà la forme du tunnel, sa longueur et l'engagement qui a été pris pour le réaliser dans des conditions qui étaient une grande opération, un tunnel à 100 mètres de profondeur de 27 km, était finalement un effort déjà très très important. Et ce qui a été cité par Jacques, qui était finalement les énergies qui ont été mises en œuvre dans les deux étapes de l'existence du LEP, à 100 Gev et à 200 Gev, finalement ont donné la possibilité d'avoir à la fois une première étape qui était finalement une usine à Z, et une deuxième étape qui a donné toujours la possibilité d'avoir un grand nombre de paires de W et de permettre leur étude dans le détail. Pour l'existence du LEP, je crois la collaboration, le partenariat entre le CERN et le LEP a été un élément essentiel, et on vous a déjà parlé de ça, de l'existence du LIL ce matin, et je crois que ce qui vous est présenté, la photo qui vous est présentée, qui représente une signature d'un accord entre le directeur du CERN d'alors, M. Schopper, et le directeur de l'IN2P3, Pérez et Jorba, signant un accord le 31 mars 82 pour la réalisation de l'injecteur, du pré-injecteur des positrons dans le LEP. Vous savez que ce qui s'appelait donc le LIL, c'était constitué, finalement, l'injecteur du LEP était constitué de trois parties. Upstream, une injection d'électrons dans une cible, comme le citait Jacques tout à l'heure. Cette cible fournissant la possibilité d'avoir des positrons qui sont ensuite accélérés jusqu'à 600 GeV. Et c'était à 600 mEV, pardon. Et c'est ces positrons et un faisceau d'électrons qui ont été injectés dans le LEP. Donc vous avez une lecture là, des différentes étapes qui ont été mises en œuvre, et la fin de la pré-injection utilisait un accumulateur d'électrons et de positrons et tel qu'il est indiqué là, dans le texte qui est devant vous. Dans le LEP, la collaboration en dehors de la partie accélérateur a été évidemment dans le domaine expérimental, la collaboration avec le LAL, et elle a été essentiellement dans deux expériences, Aleph et Delphi. Et là, ce que nous voyons, là, c'est une réunion de quatre personnes dont vous pouvez voir reconnaître les personnes. Pierre Lazéras est à gauche, le professeur Stan Berger est à côté de Forêt de Foix, qui est au milieu, et Jacques Lefrançois est à votre droite. La contribution du LAL à l'expérience Aleph a été concentrée autour du calorimètre électromagnétique, mais aussi à l'exploitation et à l'analyse des résultats. Mais je crois qu'il est bon de remarquer que finalement, pour ces deux expériences, Aleph et Delphi, l'institution LAL a eu le privilège unique, je crois, je n'ai pas d'autres exemples, que simultanément, deux personnes du LAL étaient représentants, porte-parole des deux expériences Aleph et Delphi, M. Lefrançois pour Aleph et notre chairman d'aujourd'hui pour Delphi. Dans le cadre de Delphi, c'était essentiellement la chambre à projection temporelle qui a été l'apport principal du LAL à Delphi. Et disons, je crois que l'un comme l'autre de ces expériences ont permis ce qui a été décrit ce matin par ce jeune physicien, la cohérence et le détail du modèle standard, mais je crois que tout un chacun a été déçu de terminer en 2000 sans avoir pu prouver ou nier l'existence du Higgs autour de 115 GeV, et les discussions n'ont pas manqué, même si on a ensuite regretté peut-être d'avoir arrêté si tôt l'expérimentation sur le LEP, mais c'était pour permettre de faire quelque chose d'encore plus grand qui est du LHC. Simultanément, quand même, à l'exploitation du LEP, des expériences aux cibles fixes ont continué. Et là, vous avez le faisceau qui est utilisé dans l'expérience NL48 dans la zone nord du CERN. Et cette expérience elle-même. Il y a un blocage dans le. Au secours, il y a un blocage dans le passage. Alors. Ferme la fenêtre. Allez-y, je pourrais corriger votre. Voilà. Très bien, merci. Donc, l'expérience NA48 qui prenait la succession de NA31. Qui avait donné des résultats que ne confirmaient pas d'autres expériences à Fermilab. Finalement, celle NANA 48 a amené finalement chacun à reconnaître que la violation de CP, si vous voulez, était un fait. La valeur expérimentale n'est peut-être pas celle qu'on souhaitait pour justifier l'équilibre matière-antimatière, mais néanmoins, c'est un fait qui n'est plus discutable. Vous savez que NANA 48 a des projets de continuation dans une troisième étape pour regarder des évolutions très rares des cas, mais nous verrons si nous pouvons trouver des ressources suffisantes pour lancer cette expérience dans un futur pas trop lointain. Donc le LEP a été arrêté, même s'il y avait des contestations, pour la réalisation du LHC, et cette réalisation finalement a amené, comme d'habitude, les participations du LAL au CERN dans les deux domaines que sont les accélérateurs ou les expériences. Dans les accélérateurs.
Ça, c'est les lunettes avec, quoi. C'est ça qui.
Le petit point qui a été, disons, une association importante a été et continue à être finalement dans la partie du développement ce que nous appelons les sections.
Ouais, c'est mieux là, ouais, c'est mieux là. C'est mieux.
Courtes. Ce sont des quadrupoles de focalisation. D'accord. Pour laquelle, finalement, une collaboration qui est permanente entre le Lal et Orsay, sur le plateau, ont permis la réalisation d'un prototype de ces quadrupoles, ensuite d'établir les dessins, de le suivre dans la réalisation industrielle, et le Lal a eu la responsabilité finalement d'intégrer ces masses froides dans un cryostat, et finalement cet ensemble de 430 quadrupoles finalement est en cours de terminaison, de test et d'installation auprès de l'HC. C'est un effort particulier de la France auprès du CERN comme une contribution volontaire en dehors de sa dotation budgétaire. L'étape suivante de collaboration importante du LAL a été à la participation de la définition du GRI. Vous savez que le LAL a été presque un des partenaires essentiels dans la première étape qui s'appelait DataGRI, qui a conçu et rendu possible finalement la conception de l'ensemble de la grille de calcul. Et actuellement, dans les étapes successives de développement de cette infrastructure qui est le EGE pour mettre à disposition de l'ensemble des autres domaines scientifiques les techniques de calcul et de mise en commun des moyens informatique par les différents laboratoires de physique des particules puisse être transféré à l'ensemble des autres disciplines. Les sections droites courtes dont je vous parlais, nous avons un dessin ici qui montrait la complexité de l'intégration des masses froides quadrupolaires dans la jonction avec le système cryogénique, puisque c'est là que se font finalement les échanges de fluides avec la distribution cryogénique autour de l'HC. Et ces sections droites sont encore sur le chemin critique, disons, de la terminaison du RFC. Un exemple que je n'avais pas cité, c'est le fait que LAL a été chargé, finalement, bien volontiers, de l'ensemble des calibrations des thermocouples. Et vous voyez que le socle, le nombre de ceux qu'ils ont utilisés est impressionnant, et donc la tâche qui a consisté à les calibrer était essentiellement
D'accord.
En dehors de cette participation à l'accélérateur NHC, la participation à deux expériences qui sont préparées que sont Atlas et l'HCV finalement ont déjà été citées, si vous voulez, mais je crois que de répéter là c'est rendre hommage à tous ceux qui ont passer une part de leur passion et surtout de leur temps et de leur énergie. Donc Atlas, dont vous voyez une photo essentiellement esthétique, qui montre la présence du calorimètre hadronique, qui est la découverte de Daniel Fournier et la mise en œuvre par le LAL, qui se trouve au centre de l'expérience. L'ensemble des bobines supraconductrices qui réalisent le champ toroïdal qui servira au spectromètre à muon et donne un aspect grandiose et esthétique à cette réalisation. Ce qui montre bien que derrière, il y a une quantité de travail d'ingénierie et de mise au point qui n'a pas manqué d'être grande. Alors, Atlas, c'est un détecteur général qui veut s'intéresser à tous les problèmes de physique qui ont été énoncés ce matin, la longue liste de la masse, quels sont les X, quelles sont les particules supersymétriques, la masse noire, etc. etc. Mais l'apport sur lequel il faut être beaucoup plus précis, c'est l'apport du LAL dans la partie du calorimètre à argon, aussi bien pour le dessin initial, finalement, de l'accordéon et des moyens de détection, une partie de l'ingénierie qui est le calorimètre des fermetures en bout dans la partie du calorimètre qui sont situées de part et d'autre finalement de la partie du central, l'électronique d'interface et puis finalement l'ensemble du contrôle de du système cryogénique qui est associé. Et là, il y a là un apport vraiment très très important. Sur LHCB, je crois que l'apport en tant que matériel a été moins grand, mais la partie électronique est peut-être plus importante puisque finalement elle a suivi, elle réalise tout un un aspect d'interface à 40 mégasixes qui apparaît pour les spécialistes comme quelque chose de la fois nouveau et impressionnant. Simultanément, si vous voulez, ce qui montre bien à la fois la diversité des travaux qui sont engagés au LAL et d'autre part la compétence généralisée qui existe, c'était finalement pendant cette période de réalisation du LHC d'avoir aussi une participation à CNGS. Alors, CNGS est une expérience qui utilise un faisceau de neutrinos muoniques lancés du CERN, détecté par une expérience qui s'appelle OPERA, qui est dans le tunnel, dans la caverne du Grand Sasso, auprès de Rome. Et ce qui vous est montré là, c'est d'une part le tube à vide dans lequel la décroissance des pions et des caons qui permettent la création de faisceaux de neutrinos. C'est un tube à vide qui est 1 km de long, qui est en terre et qui est orienté vers l'expérience du Grand Sasso, ce qui vous est indiqué sur la photo de gauche. Mais celle importante, c'est la photo de droite, qui montre la réalisation du système de focalisation des pions et des caons pour permettre d'avoir la meilleure efficacité dans la création et la direction de ces neutrinos. Et c'est un objet qui est, par son importance et la difficulté de sa construction, finalement, a été, disons, une réussite avec des déboires. Je crois que c'est la meilleure façon de le dire. La participation du LAL à l'expérience elle-même d'Opéra, qui est au Grand Sasso, finalement, est importante, mais on la verra, ne portera ses fruits que finalement d'ici 2 ou 3 ans. Vous savez que le nombre d'événements à mesurer, qui sont finalement l'apparition de neutrinos toïques et disparition de neutrinos muoniques, est une mesure difficile. Il y a très peu d'événements à mesurer, et je crois qu'on applaudira ces résultats d'ici quelques années. Mais elle débutera dès cette année en envoyant déjà vers la fin de l'année 2006 le faisceau de neutrinos vers le Grand Sasso. Alors, en dehors du LHC, en dehors de CNGS, il y a finalement une préparation de l'avenir à plus long terme qui est le que nous appelons CLIP, c'est le Compact Linear Collisioner. C'est un schéma d'accélération d'électrons pour aboutir à un accélérateur linéaire, au même titre que l'ILC qui vous a été présenté. Le CLIP vous a été montré avec une étincelle simplement d'explication. C'est un schéma qui est ancien, il a été développé à la fin des années 80, et il s'est développé très lentement, vu l'intérêt porté au LEP, ensuite au LHC, et donc les travaux ont été très 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 lents pour avancer. Depuis 2004, nous avons souhaité, en même temps que la finition du LHC se réalisait, avoir une collaboration de très nombreux laboratoires européens et non européens, finalement, une détermination réellement de la faisabilité du CLIC, c'est-à-dire voir les vérifications expérimentales et techniques qui doivent être faites pour avoir une réponse en 2010 sur la capacité d'utiliser le schéma CLIC pour un accélérateur d'électrons et de positrons, donc un collisionnaire. Et la réponse pourrait être positive ou négative, mais si elle était positive, je crois qu'elle donnerait la possibilité de rêver un collisionneur au-dessus d'un tel, et secondo, peut-être en le faisant avec un coût économique qui soit minimisé. Et c'est par là que ce schéma est un schéma avantageux pour l'avenir. Ce qui ne détruit pas tous les autres intérêts des autres technologies, mais celle-là dépend finalement d'une réponse par oui ou non à un certain nombre de contraintes techniques dont la vision théorique ne permet pas de trancher. Et donc j'arrive à la fin de mon exposé. Je crois que la diversité des exemples de cette collaboration entre frères et sœurs, tels que je voyais le LAL et le CERN, je crois qu'elle vous aura donné la capacité de voir qu'elle a été très diverse, très diverse, que chaque fois elle a amené un succès, chaque fois qu'elle a amené non pas seulement à une réalisation technique, mais à la création de liens fraternels, d'amitié entre des personnes. Le nom de ce que j'ai pu citer est très faible, et je m'en excuse auprès d'eux, mais je suis persuadé que c'est le gage d'une continuation future de notre collaboration, puisque finalement, elle est ancrée sur une analyse permanente de leurs relations et de leurs possibilités. Et donc, je vois que la création du LAL après celle du CERN, mais finalement, permet à ces deux organismes d'avoir une vision du futur qui soit très positive. Et je vous en remercie.